Canada. Et ce sera tout pour ce soir. À demain, les amis.
Une station créée pour les gens de Québec. Pas de script, pas de personnage. Pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur. Ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes puis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
Know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
William Trudel, salut!
Salut.
Très, très content de te rencontrer pour une première fois en ondes, cher ami. Écoute, je t'entendais sur les ondes de radio un peu partout. Je me disais, OK, t'es un peu là. Ce gars-là a été policier. Il a été policier, entre guillemets, missionnaire, puisque t'as fait énormément de missions dans des pays où on avait besoin de notre expertise. Puis en plus, après, ben, t'es devenu un éminent homme d'affaires qui est pas mal sur la coche au niveau du développement de son entreprise. Fait que de passer une heure avec toi, je me considère comme très chanceux. Donc, merci beaucoup de ta présence. Je pense que les auditeurs vont grandement apprécier.
Ah ben merci pour l'invitation. Moi, je suis content d'être là, puis j'espère que je vais réussir à rendre ça intéressant pour les gens qui nous écoutent.
Ouais. Oh, certainement. Je t'ai déjà entendu. Tu étais bon. D'après moi, tu ne seras pas différent ce soir. Écoute, William, on va commencer par parler de ta carrière de policier. Tu étais policier pendant combien d'années?
Pendant pratiquement 20 ans. J'ai fait plusieurs services de police,
ouais. Mais
le plus gros de mon temps à la police de Québec, service de police de la ville de Québec. Mais j'ai fait un court passage à la Sûreté du Québec aussi pendant environ une année.
OK.
Puis j'ai également fait...
T'as changé de chemise. T'as osé changer de chemise.
J'ai changé de couleur de chemise. J'ai commencé vert, j'ai fini bleu. Puis ouais. Entre les deux, j'ai fait un passage aussi d'un peu moins d'une année dans le Grand Nord pour le Kativik Regional Police Force,
ouais. Qui
est le service de police autochtone Inuit dans le Grand Nord. Puis je dis souvent que ça a été ma première mission. Par la suite, j'ai fait plusieurs missions avec les opérations spéciales des Nations Unies.
Ouais.
Mais ma première mission, je l'ai faite ici même dans notre province. Puis c'est avec le Kativik Regional Police Force. C'est un milieu complètement différent. Tu sais, t'arrives là, t'es un jeune policier, tu sors de Nicolette, t'es formé up to date.
Uh-huh.
Tous tes cours sont à jour, toutes tes techniques sont à jour. Mais là, c'est la vraie vie qui te frappe, la vraie réalité te frappe.
Exact.
Le premier soir, le premier 5 minutes, quand tu embarques dans le camion de police, ça commence et ça n'arrête pas.
Qu'est-ce qui te motivait à devenir policier?
Moi, sérieusement, là, j'ai pas eu besoin moi, de me poser cette question-là. Puis je dis souvent que, autant mon frère Jonathan aussi que tu connais,
ouais. Qui
était policier, lui, pendant 15 ans. Notre père, Alain, était policier aussi dans la police de Beauport pendant longtemps. Puis tu sais, on a tout le temps été plus grand puis plus gros que tout le monde. Tu sais, aujourd'hui, tu le sais, je suis à 6 pieds 5, 260 trop de livres. OK? Mais moi, je me suis pas posé cette question-là. On est né comme ça. On est né qu'on aimait ça, protéger les autres. Puis on aimait ça. Fait que rapidement, moi, ça a été de travailler comme portier au bord de Maurice. Ça a été de travailler à la DPJ pour aller chercher des enfants, malheureusement, en difficulté la nuit quand les policiers nous appelaient.
Ouais.
Ça a été de travailler au palais de justice comme constable spécial où j'apprenais comment le tribunal fonctionnait. Ça a toujours été ça. Fait que moi, j'ai voulu faire ça. J'ai rêvé de faire ça, puis je l'ai fait pendant 20 ans. Puis le dernier soir que j'ai remis mes armes puis mes uniformes à la police de Québec, c'est en 2017. J'ai trouvé ça très difficile. Puis je le savais que je m'en allais de mon plein gré pour un nouveau défi extraordinaire qui était de faire grossir mon entreprise.
Ouais.
Mais ça a été une soirée difficile pour moi parce que j'ai beaucoup aimé ce travail-là.
OK. Dans la première portion du podcast, on va parler de ta carrière de policier, des missions que tu as faites, des difficultés que tu as vues ailleurs dans le monde pour ce qui est des corps de police. Je trouve ça intéressant. Tu es passé de policier au Québec à un policier qui s'en va directement dans le Grand Nord. Y a-t-il une grosse différence entre la clientèle ici versus celle là-bas?
Il y a une grosse différence parce que la culture dans laquelle tu opères ton métier, tu fais tes opérations,
ouais. Influence
beaucoup la façon d'agir de la population et la façon de réagir et de percevoir du policier. Quelque chose dans une société peut être perçu comme une menace, puis dans une autre société, c'est un comportement qui n'est pas nécessairement une menace. Puis pour être un bon policier, il faut que tu aies une assez fine compréhension du contrat social qui existe entre la police et la société dans laquelle tu exerces ton métier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, parlons d'ici, mettons, au Québec, la province de Québec, Québec, Montréal, Trois-Rivières, Drummondville. Ben, le contrat social, il est encadré par des lois, par des règlements, par le code de la sécurité routière, par le code criminel qui dit ben, faut que la population se comporte de telle façon, puis sinon, ben, il va arriver telle chose, puis ça, c'est la police qui s'en occupe. Puis d'un autre côté, la police, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, puis c'est tout à fait normal. Fait qu'eux autres, ils ont des règles, puis ils ont des normes pour agir. Puis le contrat social, ben, il se résume sur des affaires assez simples. Tu n'attaques pas un policier armé parce qu'il va se protéger sa vie, puis ça se peut malheureusement qu'il te tue. T'sais. Ça fait partie du contrat social. Mm-hmm. Si tu as une fine compréhension de ta société, tu es capable de détecter très, très, très rapidement des enjeux, puis tu es capable très rapidement, avec une bonne formation, de détecter si c'est une menace léger, moyen, grave, on réagit comment, c'est quoi mes pouvoirs d'intervention là-dedans. Puis qu'est-ce que la société raisonnablement s'attendrait de moi dans cette situation-là? Comment j'agis comme policier? Quand tu arrives dans une nouvelle société, comme une nouvelle culture, comme ça m'est arrivé à Kativik, comme ça m'est arrivé en Haïti, à Cité-Soleil, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, c'est que ça te prend du temps au début de bien comprendre les gens, puis de bien comprendre pourquoi les choses sont comme ça, puis pourquoi ils agissent comme ça. Donc, tant que tu n'as pas bien compris comme il faut ta société, tu ne comprends pas tout bien le contrat social qui existe entre la population et la police. Tes interventions ne sont pas tout le temps parfaitement bien adaptées. Ça, c'est que tu développes une facilité pour comprendre ça. Puis il y a différentes méthodes. Une des méthodes que j'ai faites, puis je le fais encore aujourd'hui, j'ai appris ça dans la police, mais je le fais dans l'entreprise, c'est de parler aux gens. C'est de parler à tous les acteurs de ta société civile. Donc, systématiquement, on était déployé dans un nouveau village en Haïti. On arrivait là en hélicoptère. On arrivait avec des policiers, des militaires. J'ai appris à parler créole à ce moment-là en Haïti. Systématiquement, j'essayais de voir, est-ce qu'il y a un maire ici? Est-ce que je pourrais voir le maire? Est-ce qu'il y a une petite chambre de commerce? Est-ce qu'il y a une association de commerçants? Je peux-tu leur parler? Mm-hmm. Y a-tu une maison qui s'occupe des jeunes? Y a-tu une place où je peux-tu aller voir puis parler aux gens? Y a-tu un curé? J'aimerais ça jaser avec le curé. J'aimerais ça. Y a-tu un marché? Oui, il y a un marché avec des commerçants puis des dames qui vendent des fruits, des légumes. J'aimerais ça aller passer du temps au marché puis jaser au monde.
Donc, tu as fait le tour.
Ça, tu fais ça pendant une couple de jours, une couple de semaines. Tu t'imprègnes de la société puis tu deviens plus habile à comprendre ta société.
Ouais.
Donc, à détecter ton contrat social, donc à être un policier qui a des interventions adaptées dans la situation.
Ah, je trouve ça très nice. Puis il y a un corps de police pour lequel tu as travaillé, William, qui, il y a de ça quelques années, avait des problèmes avec des nouveaux arrivants. Puis c'était tous des gens qui étaient de la même culture. Et les policiers, ce qu'ils notaient, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une intervention avec des gens de cette culture-là, les gens avaient une tendance à leur toucher. Donc, un individu s'approchait de toi. Toi, tu étais un policier armé. Notre réflexe ici en Occident, c'est que quand un individu accroche un policier, le policier, lui, il surveille son environnement constamment. Puis c'est pas naturel en Occident. Tandis que chez ces communautés-là, c'était normal de toucher aux épaules du policier. C'était normal de s'expliquer. Puis parfois même hausser le ton avec le policier. Mais ça voulait pas dire que l'individu devenait dangereux pour le policier. Donc, on avait donné des cours, justement, aux policiers de cette ville-là, pour pouvoir en apprendre plus sur la façon de faire de ces gens-là dans leur pays. Puis les policiers, ça leur a fait un grand bien parce qu'ils disaient, OK, là, je comprends que quand ces individus-là viennent me parler, ça se peut qu'ils me touchent à l'épaule, mais ce n'est pas une menace comparativement Exactement. À tout ce que vous avez appris à l'école.
Puis je peux donner quelques exemples très concrets là-dessus.
Okay? Ouais.
Je vais te donner un exemple.
Ouais.
Sur la rue Sainte-Catherine à Montréal ou sur la Grande Allée à Québec ou au centre-ville de Trois-Rivières, OK, un policier voit quelqu'un qui passe en quatre roues avec une arme en bandoulière. Est-ce que c'est normal?
Non.
Comment il va réagir?
Bien, probablement...
Il va réagir pour circonscrire cette menace-là très
vite. Il va y aller, puis il va appeler du renfort.
Puis empêcher que la menace se promène partout armée.
Exact.
Puis essayer d'avoir une reddition pacifique. La même situation à Coudjouac, que tu vois un Inuit qui est habillé avec un manteau en peau de phoque qui passe en quatre roues avec une arme en bandoulière.
C'est un lundi.
Tu vas le voir, tu lui dis salut, tu lui donnes une poignée de main, tu lui souhaites bonne chasse, puis tu lui dis ramène-moi-en.
Oui.
C'est la même situation.
Oui.
On n'est pas dans le même contexte.
Exact.
Je suis le même policier. Uh-huh. Alors, sur la rue Sainte-Catherine, lors d'un match, mettons, de série éliminatoire du Canadien de Montréal ou ici sur la Grande Allée à Québec ou des choses comme ça, la police se fait encercler par un groupe de gens en état d'ébriété qui commencent à lancer des, qui ont des bouteilles de bière, Est-ce que c'est une menace?
Oui.
En Haïti, systématiquement, tu arrives dans un village, tu atterris en hélicoptère, en quelques secondes, tu te fais encercler par 400-500 personnes, puis il y en a plusieurs là-dedans qui ont des machettes parce que c'est un outil de travail pour eux autres, mais en aucun temps, c'était menaçant. Mais c'est, je suis un policier qui me fait encercler par 400 personnes, mais dans un contexte festif où les gens ont de l'alcool puis la tension est palpable, je vais le détecter comme une menace puis je vais agir pour ne pas me faire prendre à partie par la foule. Puis dans un autre contexte, il y a des centaines de personnes qui m'entourent, dont plusieurs dizaines qui ont des machettes, puis je le détecte aucunement comme une menace. C'est presque la même situation, mais dans des contextes complètement différents.
Mais tu avais l'intelligence de le faire par toi-même. Maintenant, tu es en affaires, puis tu le fais aussi par toi-même. Tu fais tes propres recherches, puis tu parles avec les gens qui sont concernés, puis tu vas passer du temps avec eux. Est-ce que c'est des choses qu'on vous apprenait quand vous allez en mission dans un autre pays? Tu as parlé d'Haïti tout à l'heure. Est-ce qu'on vous disait au départ, ça allait être quoi, Haïti? Puis est-ce que ce qu'on te disait au départ, la réalité, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on te disait ou c'était totalement différent?
Il y avait quand même une très bonne formation à l'époque qui se donnait à Ottawa sur une base militaire des forces canadiennes puis qui se donnait pour les militaires et les policiers. Puis il y avait quand même pas mal de cours de géopolitique là-dedans. Puis ils nous expliquaient un peu pourquoi que le pays était rendu comme ça. Ils nous expliquaient quel était le mandat de la mission des Nations Unies pour que tu comprennes ton contexte légal. Mais c'est sûr que la première fois que je suis arrivé à Port-au-Prince, j'étais quand même jeune policier dans ce temps-là, mi-vingtaine. Ça donne un bon grand coup, là, tu sais, parce que c'était peu de temps en 2004 après le coup d'État qui a renversé le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide. Et lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays comme ça, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détruire puis ils vont brûler les institutions.
Ouais, tout ce qui représente l'autorité.
Les palais de justice sont détruits, le Parlement est détruit, les prisons sont détruites, il n'y a plus de bureaux de douane, il n'y a plus de bureaux d'impôts, l'aéroport, ça, c'est tout croche, c'est plus contrôlé, les clôtures sont arrachées. Donc, on est arrivé là, on a embarqué dans un camion militaire pour nous amener au campement, puis on a eu de la difficulté à se rendre avec le camion militaire parce qu'il y avait trop de vidanges dans les rues, parce qu'il n'y a plus de service qui ramasse les vidanges. L'État ne fonctionne plus. L'État est en faillite complètement après un coup d'État.
Ouais.
Puis ça, là, c'est quelque chose là, de comprendre ça, là, tes premières semaines. Il n'y a rien qui marche comme c'est supposé de marcher, jamais. Chaque minute de ta journée, une affaire simple va devenir hyper compliquée. Parce que tous les engrenages qui font que notre société marche, puis c'est pas parfait, mais notre société marche quand même ici au Québec, mais tous ces engrenages-là sont défectueux après un coup d'État. Fait qu'il n'y a rien qui marche comme c'est supposé.
T'avais un mindset là-bas. Est-ce que t'as ramené des choses avec toi, des souvenirs, des bons comme des mauvais ou des façons de faire? T'sais, je parlais avec un gars qui il travaillait pour la Sûreté du Québec. Lui, c'était
un agent d'infiltration.
Un agent d'infiltration. Il a fait ça pendant quasiment 25-30 ans. Puis, tu sais, il ne voulait pas le dire devant le micro, mais je peux en parler maintenant. C'est que lui, aujourd'hui, il a encore de la difficulté quand il va dans un restaurant. Tu sais, il est tout le temps dos au mur.
Oui, assurément, moi aussi. Là.
Il s'organise tout le temps pour voir la porte d'entrée.
Oui, oui, tout le temps.
Chaque individu qui rentre dans la place est scanné automatiquement en haut jusqu'en bas. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, est-ce que c'est une menace ou c'en est pas une? T'as-tu ramené ce genre de truc-là?
Oui, ben, je veux dire, tous les comportements que tu dis là, je les ai, mais c'est pas dérangeant.
Non.
C'est pas dérangeant pour moi. Puis, tu sais, tu t'en es pas rendu compte. Quand on est rentré ici dans le studio pour faire le podcast ensemble, tu m'as demandé est-ce que tu es déjà venu ici? Puis, je t'ai jamais venu dans cette section-là ici du studio. Je t'ai dit non. Mais j'ai scanné, j'ai regardé, puis j'ai vu qu'il y avait des bureaux à côté, j'ai vu s'ils étaient occupés ou non, les lumières sont allumées, la sortie de secours est où.
C'est encore des réflexes.
En rentrant, là, j'ai tout analysé mon environnement, puis toi, tu t'en es pas rendu compte parce qu'on avait une discussion agréable, puis on s'en venait faire le podcast. Donc, c'est pas quelque chose qui est dérangeant, mais c'est sûr que tu perçois plus jamais la société puis le monde comme avant.
Rouler les fenêtres baissées quand tu reviens au Québec, c'était quoi? C'était comment?
Je vais te conter une anecdote une fois, là, dans mes premières fois, deux anecdotes, OK? Une fois, j'étais sur un artère commercial, en pleine tempête de neige. Fait que j'étais dans ma voiture. Le monsieur à côté de moi, il était comme dans une minivan. À un moment donné, je le vois, il rouvre sa porte très, très vite, puis il sort de la voiture très vite. Je me suis penché dans le fond de ma voiture, j'ai rouvert le coffre à gants, j'essaie de chercher une arme. Puis j'avais pas d'arme, j'étais en congé cette journée-là, j'avais rien. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, t'as peu, je suis au Québec. Je me suis relevé tranquillement. Puis il a sorti vite de sa voiture pour dégivrer son pare-brise. Puis rentrer dans sa voiture, c'était aucunement une menace.
Ouais.
Mais moi, je l'ai détecté tout de suite comme une menace. Puis ça m'a fait dire, wow, t'as peu. Ça a été dur parce que faut que tu réapprennes à vivre dans ta société à toi.
Exact.
Puis pas longtemps après, j'arrive dans une épicerie genre IGA. J'arrive à la caisse. Ça faisait 4 ans que j'étais plus au Québec à ce moment-là. Ça faisait 4 ans que j'étais en mission.
OK.
La dame, elle me dit, plastique ou papier?
Plastique ou papier?
Moi, j'ai ma carte de débit dans mes mains. Ça fait 4 ans que je peux aller à l'épicerie. Je vis dans des campements. J'ai dit, plastique? Elle dit, non, mais plastique ou papier? J'ai dit, ma carte est en plastique. Elle dit, mais non, le sac. Voulez-vous un sac en plastique ou en papier? Moi, quand je suis parti, il y a 4 ans, il ne posait pas cette question-là. C'était tous des sacs en plastique.
Exact.
Puis ça fait 4 ans que moi, je peux aller faire quelque chose, la vie normale,
ouais.
Que je suis dans des pays en guerre, dans des campements. Là, je me suis dit, il faut que je réapprenne à vivre dans ma société quasiment comme un détenu qui a fait une peine de plusieurs années en dedans. Quand il ressort, il faut qu'il réapprenne à vivre. Mais quand je suis revenu de mission, j'ai eu cette étape-là.
Haïti, est-ce que vous étiez basé avec les militaires, donc dans des endroits isolés qui étaient sécurisés, ou vous aviez des maisons à travers la population? Parce qu'advenant le cas où tu as une maison à travers la population, ils savent que tu es policier. De rentrer chez vous, ça devait être une hésitation aussi, si c'était
les deux. Les deux. Il y a certaines régions qu'on était sur un campement militaire.
Ouais.
Puis il y a d'autres régions, comme à plusieurs reprises, là, j'ai resté quand même assez longtemps, une petite ville qui s'appelle Port de Paix, au nord-ouest d'Haïti. Il n'y a pas de port, puis il n'y a pas de paix. Puis là, j'habitais dans une maison dans la communauté.
Ouais.
Puis tu sais, j'ai une petite anecdote là-dedans, tu sais, c'est qu'il n'y a pas d'eau courante, donc tu te fais livrer de l'eau.
Ouais.
Puis là, moi, je me faisais livrer de l'eau, puis 2 jours après, il n'en restait jamais de l'eau. Puis là, j'étais là, ouais, tu sais, j'ai pris 2 fois ma douche, ça se peut pas. Pour en venir à détecter que, ben, y a des gens qui avaient creusé sous mon mur de protection pour se connecter sur les tuyaux pour avoir de l'eau parce qu'eux, ils n'ont pas d'eau chez eux puis ils ont des enfants. Fait que là, mettons, posons-nous la question, est-ce que je suis en train de me faire voler de l'eau ou les gens n'ont pas le choix parce qu'ils sont en situation de survie?
Ouais.
Ben moi, je peux réagir en disant, ils me volent de l'eau, puis là, je me fâche, puis là, je vais devenir l'ennemi du quartier. Mais je peux réagir en disant, hey, à la place là, de creuser en dessous de mon mur pour avoir de l'eau, là, je vais vous faire une place au portail de la maison.
Uh-huh.
Puis chaque soir, entre 6 et 7 heures, je vais mettre l'eau disponible, puis essayer de faire chacun votre tour pour qu'il m'en reste. Puis ça a fonctionné. Puis à ce moment-là, c'est déjà arrivé par la suite. 2 fois que les voisins de la rue m'ont dit, et eux autres, en Haïti, ils t'appellent blanc. Puis c'est pas une connotation négative, OK? C'est amical. Puis 2 fois qu'ils m'ont dit, là, blanc, aujourd'hui, sort pas. Parce que il y avait quelque chose en ville, ils savaient que ça chaufferait. Fait qu'à ce moment-là, ben je sortais quand même, parce que j'effectuais mon travail de policier, mais
ouais.
Je sortais pas tout seul avec mon camion. J'ai demandé à un escorte militaire qui venait me chercher, puis on travaillait autrement.
Est-ce que vous étiez constamment armé, même les fois où... Ah oui, même la nuit?
Assis sur le bol de toilette. Le pistolet, il est sur le réservoir.
Ça fait des drôles de samedi soir quand t'es seul à la maison.
Constamment. Puis quand tu couches le soir, puis on l'apprend en formation, tu vas mettre ton arme sur ta table de nuit qui va pointer en direction de la porte d'entrée de ta chambre, puis tu vas fermer tes yeux. Puis je le fais encore aujourd'hui, mais je le fais juste avec mon verre d'eau. Mais je vais... Tu vas étirer ta main une dizaine de fois pour voir si instinctivement tu as placé l'objet au bon endroit. Donc, si tu te réveilles, ta main va aller sur l'objet. Puis l'objet, on va faire très attention qu'elle pointe dans une direction pour éliminer une menace qui rentrerait la nuit, puis pour ne pas faire de dommages collatéraux.
Ouais. Avec les missions que tu as faites, les policiers du Québec qui ont été en mission pour montrer aux autorités là-bas comment être un bon policier et tout ça, t'as-tu changé ta vision de la vie sur l'être humain, sur la mort, sur la façon dont on se traite les humains un avec les autres? Parce qu'on est né en Occident, puis bon, là, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus violent dans les rues que durant, je sais pas, quand on avait 20 ans, mais... Tu sais, de voir des gens morts, on voyait pas ça. Des fusillades, on voyait pas ça. Là, toi, t'arrives, t'es dans le chaos total. Il y a plus rien d'organisé. Les gens se traitent pas nécessairement comme des humains. Ils se traitent quasiment encore pire que si c'était tous des psychopathes, là. Tu te dis, t'es peu, là, c'est une autre planète. T'as-tu réfléchi beaucoup quand t'étais là-bas?
Oui, puis, tu sais, ça m'a fait prendre conscience que, appelons ça la sécurité publique.
Ouais.
On est dans quand même une paix sociale relativement stable au Québec.
Mm-hmm.
Il arrive des incidents reliés au crime organisé, des choses comme ça.
Ouais.
Mais tu sais, quand tu retournes chez toi le soir, tu es un animateur de radio connu. mais t'as pas peur de te faire enlever sur l'autoroute pour une rançon. Là,
non, j'ai peur de rencontrer des gens de Québec solidaire, parce que des fois, ils m'en veulent, parce que là, je suis un petit peu plus à droite économique. Mais non, je connais pas grand danger.
C'est ça, mais la ligne d'une paix sociale dans une société est très, 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 très mince. C'est une petite glace mince, ça, qui peut s'effriter puis qui peut se casser. Puis nous autres, à Québec, à Montréal, Trois-Rivières, dans Drummondville, on prend ça pour acquis parce qu'on a grandi dans une paix sociale relativement stable.
Ouais.
Mais c'est pas acquis tant que ça. Puis il peut se passer des choses. Puis là, je suis pas en train de dire que ça va arriver ici. Je fais juste dire qu'il peut se passer des choses en très peu de temps qui vont déstabiliser une société.
C'est fragile.
Puis, tu sais, si on recule de quelques années, on avait posé cette question-là en Ukraine, ben il t'aurait probablement dit qu'il y avait une paix sociale relative. Puis aujourd'hui, ben il y a une guerre. Fait qu'il peut arriver des choses très vite qui déstabilisent une société.
Ouais.
Fait que nous autres, on prend pour acquis que la démocratie fonctionne pas parfaitement, mais elle fonctionne. On prend pour acquis qu'il y a une paix relative sociale stable.
Ouais.
Lorsque nos enfants dorment dans le lit le soir, puis qu'on est avec notre conjoint, conjointe, ben, on n'est pas en train de se demander, y a-t-il quelqu'un qui va venir les enlever pour demain matin avant l'école? Mais tu sais, il y a beaucoup de sociétés que tout ce que je viens de te dire là, ils vivent ça tous les jours.
Là, bon, il y a eu un autre coup d'État à Haïti. C'est le bordel le plus total. Les gangs de rue semblent avoir repris le pouvoir. On essaie, par tous les moyens, de remettre Haïti en place. Est-ce que ça t'a fâché, toi, avec, tu as risqué ta vie là, là-bas pour essayer de remettre les choses en place? Ça te fâche-tu quand tu dis, il me semble qu'on travaille fort puis ça mène pas toujours à quelque chose?
Ouais, c'est un petit peu décourageant.
T'sais, j'ai des chums soldats qui sont partis en Afghanistan. Puis eux autres, ce qu'ils voyaient puis ce qu'ils se disaient dans leur tête, c'est Yann, moi, ce que je voulais, c'est améliorer le sort des enfants en Afghanistan, améliorer le sort des jeunes filles pour qu'ils puissent avoir une éducation comme les garçons, pour aller à l'école et tout ça. Puis une fois qu'ils sont partis, quelques années plus tard, les méchants sont revenus. Puis là, les jeunes filles sont dans des conditions qui sont épouvantables. Ça leur arrache le cœur. Un échum, Christian Saint-Pierre, que je peux nommer, il a fait la Bosnie-Herzégovine. Maintenant, il s'est rendu un militaire à la retraite. Puis quand il voit qu'après tant d'années, tu sais, il y a eu du concret, ça le console. Parce que lui, il est revenu avec des petites blessures, tu sais, psychologiques. Puis il dit, ouais, mais au moins, j'ai fait quelque chose de bien en Bosnie-Herzégovine. Puis la paix est revenue. Puis les enfants sont bien. Mm-hmm. Quand tu fais des missions, ça vire au chaos quelques années plus tard, ça brise le cœur parce que tu as risqué ta vie pour eux.
Oui, c'est décourageant. Puis, j'ai encore beaucoup d'amis. J'ai encore beaucoup d'amis puis des collègues haïtiens que je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. Puis, t'sais, maintenant, avec les moyens de communication, Facebook, Messenger, peu importe, on reste en contact encore.
Ouais.
Puis t'sais, c'est décourageant. T'sais, je leur parle une couple de fois par année. On s'appelle pour souhaiter bonne fête, joyeux Noël. Puis là, ils me comptent un peu qu'est-ce qui se passe. Puis là ils me disent, il y en a qui m'appellent chef, il y en a qui m'appellent William. Bon, peu importe. Ils me disent, tu te rappelles-tu quand on est allé à telle place ensemble? Oui, bien là, maintenant, c'est tout démoli, ça. Il n'y a plus d'électricité, les gens ne vivent plus là. C'est décourageant de penser à ça. D'un autre côté, on ne peut pas prendre tout sur nos épaules.
Ouais.
Moi, j'ai fait le meilleur que j'ai pu pendant 4 ans. Je pense que j'ai eu un impact réel dans la communauté avec mes collègues. Après, la suite, elle ne m'appartient plus parce que sinon, t'sais, ça va... T'sais, moi, je retire une expérience positive, moi, de cette émission-là. Puis j'ai encore des souvenirs, j'en ai beaucoup des bons, j'en ai des mauvais, mais les mauvais souvenirs que j'ai sont juste là. Ils m'accompagnent dans la vie, ils me dérangent pas. Ils m'empêchent pas de fonctionner, ils me font pas capoter la nuit, mais sont là. Tu sais, j'ai des images de corps, j'ai des images de situations, j'ai des images de choses vraiment tristes, mais ça me dérange pas. Je te dirais, je trouve que c'est un bagage qui m'aide. Moi, je les vois comme un bagage qui m'aide au lieu d'être quelque chose qui me nuit.
OK.
J'ai un peu cette chance-là de ne pas avoir développé de post-trauma. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas développé, mais c'est comme ça que c'est arrivé pour moi. Fait que pour moi, c'est une expérience positive sur les 4 années que j'ai faites
en Est-ce mission. Que tu apprécies plus la qualité de vie qu'on a ici en Occident? Parce que tant aussi longtemps que tu ne sors pas du Canada puis tu restes à Québec, tu ne le vois pas comment ça se passe ailleurs. Tu vois ça aux nouvelles, mais c'est comme un film. Tu as l'impression que c'est quasiment des acteurs. Mais toi, tu l'as vécu. Quand tu reviens ici, là, d'avoir l'eau chaude à la maison, d'avoir l'eau courante, c'est vrai. Hein, je l'ai toujours eu. Je m'en rendais pas compte à quel point c'était le fun de l'avoir.
Une fois en 2004, il y a eu l'ouragan Jeanne en Haïti, les 5-10-15 000 morts. Puis moi, j'étais là. Puis on était déployés en hélicoptère là, dans un petit village. Puis l'hélicoptère nous a atterri ça sur un genre de terrain de soccer. Puis là, il y avait des pleins de morts. Puis il a fallu pelleter pour l'enterrer. Puis bon, mais je vous passe les détails. Là. Puis on a resté là pendant 14-15 jours. Puis nous autres, même, il a fallu qu'on se rationne en eau et en nourriture parce qu'ils nous réapprovisionnaient juste aux 4 jours avec l'hélicoptère. Quand on est ressorti de là, j'étais dû pour un congé de 3 semaines au Québec. Fait que j'ai pris l'avion. À cette époque-là, Air Transat avait une liaison Port-au-Prince-Montréal. J'ai embarqué sur Air Transat. Quand ça a été le temps de servir les petites boîtes à lunch, l'hôtesse de l'air a dit « Monsieur, voulez-vous un deuxième fromage? » C'est des fromages Petit Québec emballés dans du plastique.
Ouais.
Elle a dit « Voulez-vous un deuxième fromage? » J'ai dit « Vous pouvez pas savoir comment il est bon. » Elle a dit « Ah, il est bon, hein, Petit Québec? » Non, j'ai dit « Madame, vous comprenez pas comment il est bon, Petit Québec. » Elle m'a regardé, elle m'en a donné un deuxième. Mais tu sais, j'en revenais pas de manger ça après avoir 14 jours à enterrer du monde. Là, il était incroyable, le fromage Petit Québec, cette journée-là. Là.
Ouais. William Trudel, moi, je trouve que tu es un personnage très intéressant, puis de voir que tu allais dans d'autres pays pour exercer ton métier de policier, puis que tu es revenu, puis que tu sembles tirer une expérience hyper positive de tout ça. Aujourd'hui, tu as une autre carrière. Tu es un homme d'affaires. Tu montes des immeubles comme pas possible. On parle de projets qui touchent pas mal le milliard, là. T'es dépassé ça maintenant?
Oui.
Vous avez dépassé le milliard?
Oui, c'est nous autres, c'est la première fois en 2025 là, que notre entreprise vaut 1 milliard de dollars.
Ouais.
Puis notre plan de développement qu'on a en marche présentement va nous amener tout près de 4 milliards de dollars dans quelques années.
Quand tu as commencé à faire de l'immobilier, est-ce que tu étais encore policier à l'époque?
J'étais un bébé police, quasiment cégep en technique policière.
Puis tu as décidé d'investir en immobilier?
Oui, mais moi, j'avais vraiment trois rêves. J'avais le rêve de devenir policier,
ouais,
puis de travailler à l'international, comme on vient de parler.
Uh-huh.
J'avais le rêve de devenir un entrepreneur qui était propriétaire d'immeubles. Puis encore aujourd'hui, ma mère, elle raconte cette histoire-là. Elle dit, t'avais 12-13 ans, puis tu disais à tout le monde, un jour, je vais avoir un immeuble qui va être tellement gros qu'il va avoir un ascenseur dedans. Moi, je figurais que quand t'as un ascenseur, tu as réussi de quoi dans la vie?
Exact.
C'est big, ton affaire. Là, aujourd'hui, on a un tableau Excel au bureau avec je sais plus comment d'ascenseur, puis il y a quelqu'un qui suit l'entretien de ça.
T'as-tu, à un moment donné, t'as-tu mis ton nom sur le dessus d'un ascenseur? Ça va être l'ascenseur William Trudel?
Non, mais il y en a dans plusieurs des bâtisses qu'on a faites, j'ai signé mon nom dans le béton, dans les fondations.
Ah ouais?
La journée qu'on coule les fondations, souvent,
ouais,
j'essaie d'y aller, puis je signe mon nom dans la fondation. Ça sert absolument à rien parce qu'on la remblait en terre par après. Mais moi, je le sais que j'ai signé mon nom dans la fondation de l'immeuble. J'aime ça.
Je vous rappelle qu'on jase avec William Trudel, ex-policier et maintenant de Trudel Alliance. On va faire la deuxième portion du podcast dans les prochaines minutes. Touchez pas à ce piton-là, on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Rage against le matin.
L'ex-enquêteur du SPVQ, Roger Ferlin. Roger, qu'on revienne sur ce meurtre qu'il y a eu en fin de semaine dans le secteur de Beauport. Comment ça se peut, dans ce genre de situation-là, qu'on finit par tuer la mauvaise personne?
En fait, triste conséquence de toutes les tensions qu'il y a en ce moment entre les gangs. En fait, ça montre le peu de respect et le peu de rigueur.
C'est des novices,
c'est en plein ça. Là, c'est une erreur à sa personne, mais au moins, on vient d'arrêter trois tueurs. Ils vont en avoir combien d'autres comme ça? Là? Regardez, là, une couple de semaines à Sainte-Marie-de-Beauce, la mitraillette en plein jour. Là, c'est encore en plein jour. Fait que c'est des gens qui ont même pas la structure de penser « On va travailler de soir et de nuit, on va se cacher. »
Rage Against le matin. Tous les jours en semaine, 6h. Sinon,
vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm.
C'est ça.
Un week-end inoubliable vous attend pour la 18e édition de Oshiaga, présentée par Bell en collaboration avec Coors Light.
Avec comme tête d'affiche, The Skellers, Tyler, the Creator et Olivia Rodrigo.
Vivez l'expérience ultime de votre été.
Avec Gracie Abrams, Glass Animals, The Chainsmokers, Shaboozy et bien plus.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner vos laissez-passer. On se retrouve à Montréal au parc Jean-Drapeau du 1er au 3 août. Billets en vente maintenant sur oshiaga.com.
Salut la gang, c'est François Baudry, chroniqueur web de l'émission Gravel dans le retour. T'aimes mes chroniques? Tu veux en savoir plus sur le monde numérique? Rends-toi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.
Plus j'y pense, plus j'ai bien fait de cotiser à mon REER chez Desjardins. Si j'ai un remboursement d'impôt, je pourrais changer de laveuse ou voyager. Oh, cotiser à mon CELI.
Ou dormir peut-être. Et minuit, chérie.
Ben oui, j'ai cotisé. Je peux dormir sur mes deux oreilles.
Offrez-vous des économies d'impôts pour 2024. Cotisez à votre REER chez Desjardins au plus tard le 3 mars 2025. Conditions et modalités applicables.
Stéphane Turmel, courtier immobilier Via Capital, met vos besoins au centre de chaque transaction. Grâce à ses 34 ans d'expérience, profitez de son expertise et de son approche basée sur la confiance pour vous accompagner à chaque étape de votre projet immobilier. Pour un courtier dévoué, avec Stéphane Turmel.
C'est la vente annuelle Matelas Dauphin. La vente qui vous offre des prix exceptionnels, plus taxes payées sur tous les matelas. Économisez des centaines de dollars, plus taxes payées, sur tous les formats de matelas Silhouette, ultra confortables, garantie 15 ans. Dont le format double, en spécial à 689 $ taxes payées. Ces offres et beaucoup plus pendant la grande vente annuelle dans tous les matelas Dauphin. Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise.
Louez le Volkswagen Taos 2025 à partir de seulement 3,49% sur 48 mois. Profitez d'un VUS compact qui allie style, confort et technologie avancée. Parfait pour toutes vos aventures. Volkswagen Saint-Nicolas, ça clique avec Saint-Nic.
Ici, sur la photo, c'est mon fils. Il est toujours tellement poli.
Mais il me prend de l'argent.
Ça, c'est Benoît, mon ami d'enfance. Il est imposant, mais il ne ferait pas de mal à une mouche.
Mais il me crie après.
Et ça, c'est Magali, ma belle-sœur. Une douceur.
Mais elle me rabaisse constamment. La maltraitance peut prendre plusieurs formes. Si vous êtes victime ou témoin de maltraitance, la ligne Aide Maltraitance Adulte Aînée est là, au 1-888-489-2287. Un message du gouvernement du Québec.
Pour une relâche magique en famille, plongez dans le monde fantastique de BeFly, entouré de centaines de papillons en liberté. Découvrez des papillons aux couleurs éclatantes provenant des quatre coins du monde. Sur place, vous pourrez aussi découvrir notre mini-golf fluo 3D, du plaisir garanti pour toute la famille. Pour souligner la relâche, BeFly vous a préparé une promotion mystère. Pour découvrir l'offre, visitez bfly.ca, bfly.ca. Une activité unique en famille à ne pas manquer aux Galeries de la Capitale.
Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien.
Non, tu y vas-tu où tu veux que j'y aille?
Vas-y donc, j'ai pas dormi de la nuit.
Tout va bien aller. Logisco.
On appelle ta mère.
Plus de 6000 appartements à Québec.
Déménagement DG sera au Salon Expo Habitat de Québec du 20 au 23 février au kiosque 567. Venez réserver vos dates pour votre déménagement. Ils seront les seuls déménageurs sur place. Déménagement DG, 15 ans d'expérience et 400 mini-entrepôts à votre disposition.
Du 20 au 23 février, venez rencontrer les experts de chez Moreau PRS au Salon Expo Habitat de Québec au kiosque 750. Apprenez-en plus sur la gamme Sunspace Sunrooms. Des produits canadiens. Pour tout ce qui est patio, rampe et solarium, c'est Moreau PRS.
Hey, c'est ta nouvelle auto?
Oui, on est finalement passé à l'hybride.
Ah ouais, mais paraît que c'est compliqué à assurer.
Pas avec l'assurance auto CA à Québec. On peut protéger une voiture électrique, hybride ou à essence.
Mais faut être membre.
Ben non. Mais en étant membre, tu fais des économies qui valent vraiment la peine. Et t'en fais encore plus en combinant ton assurance auto et habitation.
En combinant vos assurances auto et habitation CA à Québec, économisez jusqu'à 25 %. Certaines conditions s'appliquent. Visitez caquebec.com/assurance-auto pour une soumission.
Prêt à vendre votre propriété? Avec Yann Genois, courtier immobilier, profitez de 12 ans d'expertise, d'un service humain et de stratégies qui rapportent gros. Maximisez la valeur de votre propriété dès maintenant. Contactez Yann Genois ou visitez yanngenois.com.
Yann Genois, votre vision, votre succès immobilier.
Papa Roach est de retour. La tournée The Rise of the Roach, une célébration des 25 ans de l'album Infest, avec une production plus grandiose que jamais. Le 22 juillet, à l'Agora du Port de Québec, Papa Roach. Billets en vente le 21 février 2025 sur evenco.ca. Ne manquez pas Papa Roach et la tournée The Rise of the Roach.
C'est autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock.
102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Alright, merci d'être là. Je vous rappelle que ce soir, on parle avec l'entrepreneur et ex-policier William Trudel de William de Trudel Alliance. Trudel Alliance, c'est deux frères. Maintenant, on ne peut pas dire William Trudel Alliance. L'idée de te lancer en affaires avec ton frère, ça t'a-tu traîné longtemps dans la tête?
Ben, en fait, c'est ça. J'ai commencé là, à peine sorti du cégep en technique policière.
Ouais.
J'habitais encore chez mes parents dans la maison familiale à Beauport qu'ils ont encore aujourd'hui.
Uh-huh.
Notre père était policier et notre mère était enseignante au primaire. Et puis, j'ai vu sur le canal 11, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas Kijiji, il n'y avait pas les packs, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Centris.
Il y avait le 2, le 4, Le 11. Le 11. Puis il y avait le U qui était Télé-Québec à l'époque.
C'est ça. Ouais. Fait que là, moi, c'était sur le 11. Puis pendant 15 minutes, ils vendaient des maisons. Puis pendant 15 minutes, ils vendaient des voitures. Puis c'était le même gars qui annonçait.
Oui.
Fait qu'il annonçait superbe condo, Montagne des Roches. Puis 15 minutes après, c'était superbe Camaro. Okay. J'avais vu un petit condo 3,5 tout petit qui était à vendre. Puis j'étais allé le visiter. Puis je l'ai loué. Au lieu d'aller rester dedans, je l'ai loué. Je l'ai payé 31 000 $ le condo. Puis j'avais mis 3 000 $ de mise de fonds. Puis j'avais ramassé cet argent-là en travaillant à la DPJ la nuit puis les fins de semaine. Puis j'ai lavé de la vaisselle, puis j'ai travaillé quand même longtemps dans des restaurants Vieux du Lutte aussi.
OK.
Fait que je l'ai acheté, je l'ai rénové, puis un an après, je l'ai revendu 48 000 $ Fait que là, avec le 15 000 $ j'ai acheté un 3 logements tout près de chez mes parents à Beauport. Puis j'étais allé habiter dans le sous-sol. Puis là, j'ai rénové le 3 logements aussi. J'ai réemprunté 50 000 $ pour en faire bâtir un 4 logements.
OK.
Puis ainsi de suite. Donc, j'étais jeune bébé police quand j'ai commencé à faire ça.
Puis tu gérais des locataires, des bons locataires comme des mauvais.
Je faisais tout. Je faisais la comptabilité dans des cahiers Canada. J'avais des outils dans le coffre de la voiture. Je travaillais le soir, les fins de semaine. Ouais. Je dormais un peu le matin. Je me relevais. Pendant quasiment 15 ans de temps, moi, j'ai jamais pris un congé. Parce que, mettons, Noël, jour de l'an, Saint-Jean-Baptiste, mais je les travaillais volontairement parce que ça me permettait de m'accumuler du temps supplémentaire que je prenais toujours en temps. Puis après ça, les jours, la semaine, je pouvais récupérer ce temps-là.
Ben oui.
Puis là, je m'occupais des immeubles.
De tes immeubles. Fait que c'est comme ça que tu t'es monté.
Fait que c'est comme ça que je me suis monté. Puis mon frère s'est joint à moi dans les années 2004, 5, 6.
Ouais. Est-ce que c'était un naturel, ton frère, dans l'immobilier? Est-ce que lui, il te regardait aller et disait un jour, Will, j'aimerais ça m'embarquer avec toi?
Oui, puis la façon que ça s'est passé, c'est que quand je suis parti à l'étranger pour faire mes missions pour les Nations Unies pendant 4 ans, mais j'avais déjà quand même des immeubles pas mal ici. Fait que moi, je revenais aux 90 jours pour à peu près 2 semaines. Puis là, mais pendant ces 2 semaines-là, mais je m'occupais de mes affaires. C'est à ce moment-là que mon frère s'est joint à moi parce que j'étais plus à l'étranger. Fait que ça s'est fait comme naturellement.
OK. Puis lui, est-ce qu'il s'est acheté des immeubles de son côté?
Il y a eu des immeubles de son côté aussi. Qu'il a habité dedans.
Ouais.
Puis là, mais présentement, on a plusieurs compagnies maintenant. T'sais. On a Trudel Construction qui fait toutes nos propres constructions. On a Trudel Alliance, que tu parles, qui a des immeubles stabilisés là-dedans pour plusieurs centaines de millions.
Ouais.
Y en a partout au Québec. Il y a des centres d'achat, il y a plein de trucs. On a Trudel Innovation, qui est notre grosse compagnie de développement immobilier, qui a 4 gros projets immobiliers là-dedans pour une valeur de 3-4 milliards.
Comment tu fais pour ne pas perdre le nord? Tu sais, avec toutes les entreprises, tous les projets que vous avez, tu sais, nous autres, on vous voit aller, là, vous travaillez extrêmement fort. Quand j'étais avec mes chums au hockey, tu sais, des fois, ils me parlent de développement de la ville, puis ton nom sort souvent, Trudel Alliance, vous êtes rendu une fierté en passant. Là, il y a énormément de gens qui parlent de Trudel Alliance. Comment tu fais pour garder le nom, puis dire, OK, là, j'ai à peu près 35 cases dans ma tête, puis à chaque fois qu'un employé vient me voir qui est attitré à telle tâche, faut que je sois capable d'être focusé sur son projet à lui. Mmh. Ça doit être compliqué, des fois. Tu sais, des fois, ma blonde, elle me dit, hey, ramène ça de l'épicerie, j'arrive à l'épicerie, je sais plus ce qu'elle me dit. J'ose pas imaginer l'enfer, des fois, dans lequel tu dois être dans ta tête. Tu dis, hey, il faut que j'y réponde, là. Il y a besoin de ma réponse.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est préoccupant, c'est vrai que c'est très demandant.
Ouais.
Puis, tu sais, je veux dire, il y a un beau côté d'être entrepreneur, mais il y a un côté aussi qu'il faut que tu travailles très, très fort, puis il faut que tu sois capable d'encaisser les obstacles, les défis, puis les risques, OK? Il y a plusieurs choses là-dedans dans ce que tu me dis, OK? Bon, avoir une entreprise en forte croissance, peu importe, moi, je suis dans le domaine, surtout de l'immobilier, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine, les gens qui nous écoutent, avoir une entreprise en forte croissance, le plus gros défi de ça, c'est la gestion quotidienne et continue du chaos. La Banque de développement du Canada identifie très bien la croissance très, très forte et le risque de faillite. La Banque de développement du Canada fait des conférences là-dessus pour former les nouveaux entrepreneurs, de dire, quand vous allez vous mettre à avoir un taux de croissance énorme, là, le parti ne commence pas tant que ça. C'est les problèmes qui commencent. Gérer le chaos au quotidien, la police me l'ont appris, ça. Puis les forces armées des différents pays avec qui j'ai travaillé me l'ont appris. Puis quand tu es en Haïti, puis il y a un soulèvement populaire, puis ça tire partout, puis ils se brûlent des voitures, puis tu as des gens des Nations Unies puis des employés civils à aller évacuer puis à aller protéger, puis ça passe pas la route, puis il faut que tu trouves une façon. Bien ça, c'est de la gestion de chaos, puis il y a des méthodes pour gérer le chaos qui sont apprises, Puis ça, j'ai retiré ça de ces années-là. Donc, dans l'entreprise maintenant, nous sommes 150 employés, là, bientôt 200, mais il y a au moins 8-9 anciens policiers ou anciennes policières, des jeunes retraités avec qui j'ai fait des missions ou avec qui j'ai travaillé dans un service de police au Québec, qui sont dans des positions stratégiques, et c'est des gens qui n'avaient aucune expérience en affaires ni en immobilier, mais sont capables de gérer n'importe quel chaos sans être déstabilisés puis en restant calme en tout temps. Puis lorsque tu arrives comme policier dans une situation, là, ça crie, ça l'appelle au 911, ça crie, tu rentres, il y a de la vitre cassée à terre, il y a du sang, il y a un enfant qui pleure, il y a une madame, il y a un monsieur, il y a une autre madame, il y a le voisin, tu sais plus qu'est-ce qui se passe, tu as quelques secondes, mais la première chose que tu fais, la première chose que tu fais tout le temps, tu mets de l'ordre dans le désordre tout le temps.
Tu gères les priorités.
Tu gères l'ordre, tu sépares les gens, t'arrêtes que ça crie, s'il y en a un qui est turbulent, il faut qu'il se couche à terre, tu mets de l'ordre dans le désordre, puis après ça, tu analyses ta situation. Fait que ça m'aide beaucoup en affaires. L'autre chose, le système hiérarchique de commandement d'un service de police fonctionne très bien. C'est une méthode, des fois, qui est pénible un peu, parce que quand tu as tout le temps une étape au-dessus de toi, des fois, tu as l'impression que ton message, il ne se rend pas assez vite en haut. Mais en situation d'urgence, on dira bien ce qu'on veut. La police de Québec, la Sûreté, la police de Montréal, Hall Gatineau, il arrive une crise majeure, il arrive une crise du verglas, il arrive un bris électrique, quelque chose. Mais le service de police d'une grande ville au Québec va te prendre le contrôle de ta municipalité en quelques minutes. Puis en quelques heures, il y a un plan de déploiement qui est effectif. Puis la population va être protégée quand même. Fait que le système de commandement d'un service de police, ça m'aide beaucoup. J'ai reproduit sans m'en rendre compte. À cause que c'est un environnement que je connais, j'ai reproduit cette méthode d'organisation-là dans mes compagnies. Donc, ça fait que j'ai des gens de confiance, des gars, des filles de confiance en dessous de moi à des positions stratégiques, puis je leur laisse la marge de manœuvre, je leur laisse prendre le leadership, je leur fais confiance, puis ils règlent beaucoup, 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 beaucoup de choses.
Avant que ça arrive à toi.
Avant que ça arrive à moi, puis quand ça arrive à moi, ça arrive à moi packagé d'une façon où en 15 minutes, on fait le tour d'une situation, je comprends les problèmes, je comprends les enjeux, je comprends les différentes pistes de solutions, puis là, ben j'apporte mon épice, ma couleur, j'apporte ma vision, puis après ça, ça repart, puis ça continue.
Quand vous faites du développement immobilier, est-ce que vous en faites énormément à travers le Québec, est-ce que les relations avec les villes sont correctes? Est-ce que les villes, des fois, vous donnent du fil à retordre? Y a-tu des fois des employés qui se disent... Ben moi, il faut que je justifie mon travail, puis la virgule n'est pas à bonne place, le point n'est pas à bonne place, ça n'a pas été phrasé comme j'aimerais, puis ils vous achalent avec des courriels à n'en plus finir, ce qui fait en sorte que les projets retardent constamment. Tu sais, toi, tu es habitué de gérer le chaos, tu te rends compte que tu travailles avec des gens qui, eux autres, le chaos, ils n'aiment pas ça du tout, puis ils veulent que ce soit toujours clair, il faut que la virgule soit à bonne place. Ça doit être achalant, des fois, pour vous autres.
Ça devient frustrant des fois un peu, puis tu sais, faut que je me parle, faut que je prenne sur moi. Faut que je prenne sur moi un peu, parce que ça peut pas tout le temps se régler à vitesse que je voudrais, puis je l'ai assimilé là, je le comprends, je le vis de plus, tu sais, je le ressens de plus en plus. Je peux pas dire que je l'accepte, mais je vis avec, OK?
Ouais.
C'est sûr que, moi, mon expérience, OK, de fonctionnaire paresseux, de mauvaise foi, là, moi, mon expérience, ça me démontre pas ça du tout, OK? Des fonctionnaires dédiés qui nous répondent des courriels le vendredi soir, on voit ça régulièrement.
Okay? Wow. Okay.
Mais il y a un cadre réglementaire au Québec qui est imposé beaucoup par le gouvernement provincial. Uh-huh. Au Québec, les municipalités sont une extension du gouvernement provincial. Tu as la loi sur les cités et villes, puis tu en as plein d'autres, qui fait qu'un changement de zonage au Québec, c'est de même ça marche, il y a 32 étapes, puis ça finit que ça prend 4 ans. Puis ça, c'est pas le fonctionnaire qui décide de se traîner les pieds, c'est que lui, il est pris. Puis même, on retrouve des situations où les fonctionnaires vont nous dire, regardez bien, si on faisait telle chose, on couperait tel délai, ils sont rendus qu'ils nous conseillent comment naviguer dans cet océan-là de lois et règlements pour essayer d'aller plus vite puis de couper des délais.
T'as-tu la chance, ben j'imagine que oui, là, de jaser directement avec des politiciens pour leur dire justement ce que tu viens de nous mentionner là?
Absolument.
Ouais. Est-ce qu'il y a une certaine réceptivité, puis est-ce qu'ils ont de l'air surpris ou ils
sont pas surpris? Ils sont pas surpris du tout. Il y a une réceptivité.
Ouais.
Ils sont pas surpris. Maintenant, il y a des choses qui bougent. Le gouvernement du Québec là, a fait l'année dernière, puis on rentrera pas dans le technique, mais des nouvelles lois, la loi 16, la loi 31, qui donnent aux municipalités des pouvoirs d'aller plus vite à certains moments au niveau du développement immobilier, puis d'augmenter la densité. Par exemple, les terrains qui sont identifiés près d'un réseau de transport structurant, bien, la municipalité peut prendre des dispositions législatives beaucoup plus rapides pour autoriser des projets à ce moment-là. Fait qu'il y a des choses qui sont faites dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de travaux à faire. Puis on en parlait à la blague juste avant de commencer le podcast ensemble. Et tu sais, des fois, quand je me fais poser la question en commission parlementaire au Parlement fédéral à Ottawa, le président, il me demande, M. Trudel, qu'est-ce que vous nous suggérez comme modèle pour que les choses aillent plus vite? Puis j'ai répondu au Parlement, je vous suggère d'utiliser le modèle des 12 travaux d'Astérix, ça serait une nette amélioration. Et il y en a la moitié de la chambre qui ont ri, l'autre moitié n'ont pas ri, dépendamment de quel bord qu'il était. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle, je me suis amusé, c'était quand même une journée amusante.
Ben ouais.
Mais tu sais, c'est quasiment vrai, là, tu sais, des fois, on attend quoi, puis il y a tout le temps quelqu'un qui fait une joke au bureau. Là, on attend le formulaire A38B au 17e étage qui n'existe pas.
Ouais.
On attend ça 3 mois, tu sais.
Mais vous semblez, parce que tout à l'heure, tu me parlais des techniques policières que tu avais, que quand tu arrivais dans une autre communauté, tu devais t'imprégner un peu de cette communauté-là. Tu sais, vous avez tendance, quand vous voulez présenter un projet, à rencontrer les citoyens qui vont être touchés par ce projet-là.
Toujours.
Puis ça, j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi qui fait la notoriété de Trudel Alliance, c'est que vous êtes proche de votre population. Chaque fois où vous allez quelque part, vous voulez mettre un projet, ça semble être un peu réfractaire, parce qu'il y a toujours des groupes de pression qui arrivent en disant, ben moi, tu vas. J'avais la vue sur un bel érable là, qui date de qui a 80 ans, puis je voudrais pas perdre cette vue-là, puis là, toi, tu vas me mettre une bâtisse. Ben, vous les écoutez, ces gens-là, puis vous essayez des fois de modifier vos projets. Je veux dire, on dirait que c'est une nouvelle façon de faire de la part des entrepreneurs de votre catégorie.
Tu as raison, je pense que c'est une nouvelle façon de faire, puis je souhaite que ça va devenir de plus en plus répandu, ce modèle-là. Plusieurs choses là-dedans. C'est qu'on développe nos projets avec les citoyens dès la journée 1. On n'attend pas qu'un an après, il y ait une loi qui nous exige à faire une consultation publique. Ça va arriver, ça, on va le faire, mais on n'attend pas ça. On le fait directement dès le départ. Pourquoi? Bien, en étant participatif comme ça, régulièrement, il y a des citoyens qui ont eu des super bonnes idées que j'aurais jamais pensé moi-même.
Oh,
régulièrement. Okay. Je vais te donner un exemple clair de ça. Dans une municipalité du Québec, on achetait un ancien Sears.
Oui.
Qui était évidemment fermé parce que Sears, on connaît l'histoire, a fermé. Et puis, les gens en consultation publique, moi, je pensais qu'on allait le démolir pour faire un nouveau quartier résidentiel. Puis les gens nous ont dit, massivement, 3-4 000 personnes ont dit, vous devriez pas le démolir. Le Sears, il est beau. Il y a toutes des corniches en cuivre. Il y a des gros fleurs de lys qui sont gravées dedans.
Uh-huh.
Vous devriez garder le Sears. Fait que là, moi, je me suis dit, si tout le monde dit ça, ben on va le garder, le Sears. Mais après ça, on fait quoi avec? Parce qu'il ne reviendra pas, Sears. La société a changé du commerce de détail de grande superficie. Il n'y en aura plus. Mais les gens nous disaient, on aimerait ça dans notre quartier, qu'il y ait de l'éducation de haut niveau, du savoir, que nos jeunes puissent étudier ici dans notre quartier. Puis il y a des organismes communautaires qui disaient, on manque d'éducateurs spécialisés, on manque de ressources psychosociales dans le quartier.
Ouais.
Puis ça a fait 1 plus 1 plus 1 égale 3. Puis je suis parti avec mon petit baluchon, puis je suis allé voir le recteur, M. McMahon, de l'UQTR à Trois-Rivières, pour lui dire, écoutez, je pense que vous pourriez rouvrir un campus dans la région de Québec. Et c'est comme ça que l'UQTR a ouvert un nouveau campus des sciences psychosociales pour former des éducateurs spécialisés, des psychologues, des intervenants dans le quartier qui nous disaient « Gardez le CIRS, on aimerait ça que nos jeunes aient accès à l'université dans le quartier, puis on manque d'intervenants psychosociaux. » Mais les trois ont convergé à la même place, puis on a gardé le bâtiment, on a ouvert une université. Puis il y a de plus en plus d'éducateurs, éducatrices spécialisées qui travaillent là.
Oui, puis ils viennent s'établir ici. Fait que, exact. Je veux dire, c'est un plus pour tout le monde.
Je ne l'aurais jamais eu toute seule, cette idée-là.
Ouais.
C'est la population, en nous parlant, qui ont fait que l'idée est arrivée. Puis on était chanceux, les QTR ont embarqué dans ce plan-là, puis ça a fonctionné.
As-tu, pour Trudel Alliance, là, bon, on parlait tantôt des projets qui allaient dépasser le milliard. As-tu encore des grands rêves? Parce que, je veux dire, ce que vous avez mis en place, c'est vraiment nice. Est-ce que tu as encore d'autres rêves à travers le Québec?
Oui, j'en ai.
Ouais.
J'en ai encore. J'aimerais peut-être aussi qu'on prenne l'expansion au niveau international à un moment donné.
Oui.
C'est un modèle qu'on pourrait reprendre à l'international. T'sais, souvent, on achète des actifs en difficulté, des anciens centres d'achat en difficulté.
Ouais.
On garde la composante commerciale qui est bonne. Donc, s'il y a une épicerie, s'il y a une pharmacie, il y a un Dollarama, il y a un Sport Expert, on va garder la composante commerciale qui est bonne. On va enlever la composante commerciale qui est rendue désuète. Puis on va retravailler le projet avec de nouveaux usages. Du résidentiel, universitaire, bureau, médical. Et là, on va faire des espaces verts, on va faire des nouvelles rues.
Ouais.
Donc, on va utiliser un ancien centre d'achat des années 60 qui est rendu désuet, mais qui est très bien placé dans son quartier, dans sa ville. Puis on va le refaire en nouveau milieu de vie, en nouveau quartier. bien, ce modèle-là pourrait s'exporter à différents endroits, dont entre autres la côte est américaine. Il y a beaucoup d'anciens de ces centres d'achat-là qui sont à moitié ouverts, à moitié fermés. On pourrait répliquer ce modèle-là à l'étranger.
Oui, parce que c'est moi, je trouve ça parfait pour, exemple, un citoyen qui se dit, moi, j'aimerais ça travailler dans un, je ne sais pas moi, à moins d'un kilomètre de chez moi. J'aimerais ça aller m'entraîner à moins d'un kilomètre de chez moi. J'aimerais ça aller au restaurant à moins d'un kilomètre de chez moi. Tu sais, je pourrais continuer comme ça, là. Tu sais, des gens qui se disent, moi, j'ai pas besoin de voiture. Je peux être dans une bâtisse puis avoir tout au complet. C'est ce que vous semblez offrir là, à certains endroits. Je trouve ça formidable pour ces gens-là.
Ben oui, parce que quand on garde un ancien d'achat qui a une composante commerciale dedans,
ben oui.
La beauté de la chose, c'est la journée qu'on fait la première phase de développement résidentiel, les premiers résidents qui vont habiter, là, ils n'ont pas besoin d'attendre 3, 4, 5 ans pour que le reste se développe et que les commerces arrivent. Ils sont déjà là.
Exact.
Donc, ils ont accès à l'intérieur de leur immeuble, à leur épicerie, à leur coiffeuse, à leur banque, à leur pharmacie. Ça, les gens apprécient ça énormément. Tu es beaucoup moins dépendant de l'automobile.
Pour les développeurs immobiliers là, dont tu fais partie, est-ce que le stationnement, c'est encore une problématique? Y a-t-il encore des chicanes au niveau du stationnement? C'est-tu quelque chose qui vous cause des problèmes souvent, ça, les stationnements? Puis est-ce que les villes vous aident là-dedans?
Bien, le stationnement, c'est une grosse problématique parce que quand on développe des actifs comme ça, il n'y a pas d'autre choix que de les faire souterrains pour la plupart du temps. Puis du stationnement souterrain, c'est rendu que ça coûte très, très cher. Ça va nous coûter facilement 50 à 60 à 70 000 $ l'emplacement de stationnement à construire.
Oh, OK.
OK, fait que d'en faire en quantité suffisante pour tes clients, mais non, faut pas tomber à en faire trop non plus parce que ton projet ne sera pas rentable. Fait que ça, on fait des études de marché là-dessus, puis on vient comprendre notre expérience aussi. Puis on sait que tel genre de site, on va analyser systématiquement les accès au transport en commun. Qu'est-ce qu'il y a dans un rayon de 300 mètres? 300 mètres, là, c'est un beau rayon pour faire tes commissions.
C'est 300 mètres?
Ouais. 300 mètres, c'est un beau rayon pour faire tes commissions à pied. Là, c'est pas désagréable, OK? Fait qu'est-ce qu'on a dans un rayon de 300 mètres? Quel accès on a au transport en commun? Où sont nos axes routiers? Quel type de clientèle qu'on va avoir? Est-ce que c'est plutôt des jeunes retraités? Est-ce que c'est des jeunes professionnels?
Mm-hmm.
Est-ce que c'est des familles? Où sont les services médicaux? Où sont les écoles? À combien de distance? Est-ce qu'il y a des services d'autobus scolaires? On analyse tout ça, puis on en est venu à développer une expertise qu'on le sait pas mal, que c'est 1,15 cases de stationnement par logement, ou c'est 1,25, ou dans d'autres projets, c'est beaucoup plus urbain, ça va être 0,75, parce que c'est pas tous les logements qui vont avoir besoin d'un stationnement. On vient qu'on le sait.
Est-ce que le mélange des genres est bon?
Très bon.
Oui, parce que là, vous avez des condos de luxe et vous avez aussi des logements qui pourraient être vus comme étant des logements super...
Logements abordables, logements sociaux aussi, voilà. On en a.
Logements sociaux. Est-ce que le mélange, c'est bon? Est-ce que les gens sont prêts justement à côtoyer les autres?
C'est essentiel.
Oui.
C'est essentiel. C'est essentiel de mélanger tes usages.
Oui.
Donc, un usage commercial, un usage institutionnel, éducation, médical, travail, un usage résidentiel... hébergement. On se prépare à rouvrir 4 hôtels là, au Québec dans les prochaines années d'une grande bannière internationale pour 700-800 chambres d'hôtel. Donc, l'hébergement touristique. Donc, tu amènes des nouvelles personnes de l'extérieur qui dépensent de l'argent dans tes commerces. Tes résidents ont accès à plein de services communs. Donc, tu mélanges tes usages, super important. Puis la deuxième chose qu'il faut que tu mélanges, c'est tes types de clientèle. Parce que si tu veux recréer un milieu de vie agréable, ça ne peut pas être tout pareil. Dans un quartier résidentiel, c'est pas tous des gens pareils. Il y en a à différentes étapes de leur vie. Il y en a avec différentes situations maritales, enfants séparés, pas d'enfants qui en veulent pas, personnes âgées, bigénérationnelles. Dans un quartier résidentiel, il y a tout ça.
Exact.
Fait que quand tu développes des gros projets immobiliers, faut qu'il y ait ça. Ton projet va être en santé, puis les gens vont aimer ça, avoir différentes catégories de personnes.
Oui, puis ça devient un microcosme en même temps. Là. C'est une mini-société qui est capable de s'auto-suffire. Moi, je trouve ça formidable, ce que vous êtes en train de mettre en place. Est-ce que tu t'es fait achaler pour devenir maire d'une ville?
Pour devenir maire d'une ville.
Parce que t'es très humain, William Trudel. T'es un gars qui est capable de gérer une équipe. Tu fais confiance à ton monde. T'as une bonne notoriété. Les gens t'apprécient beaucoup, toi et ton frère. Ils apprécient Trudel Alliance. J'imagine qu'ils t'ont achalé, que ce soit au fédéral, provincial ou municipal. C'est clair et net que quelqu'un qui te côtoie dit « OK, ce gars-là, il a de la graine de politicien. »
Ben là, tu sais, puis en plus... On va être dans une période où dans les 12 à 18 prochains mois, il y a 3 élections. Il y en a au municipal,
ouais.
À plein de places au Québec. Il va en avoir au fédéral, assurément. Puis ça s'en vient au provincial. Fait que là, c'est sûr que tous ces paliers de gouvernement-là sont en planification stratégique pour savoir, comme on dit souvent, on se pacte un club, on se bosse une équipe. Ouais. On veut le gros club pour gagner. Fait que là, c'est sûr que mon téléphone sonne régulièrement pour des offres de toutes sortes comme ça.
Est-ce que d'ici quelques années, ça pourrait arriver? Parce que tu sembles avoir tellement de projets, là, je veux dire, à un moment donné. Puis t'as la paix. T'as la paix, il n'y a personne qui t'achale, puis essaye pas de trouver la bébite à William Trudel. T'sais. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour le faire mal paraître? Là, pour l'instant, t'as la paix. J'imagine que maintenant, t'es indépendant de fortune, fait que t'as la liberté de choisir tes projets. C'est un gros défi, la politique, là.
Oui, c'est sûr qu'il y a un côté en dedans de moi qui aimerait ça, faire mieux marcher les choses, puis trouver des solutions innovantes puis ingénieuses pour des problèmes qui durent depuis trop longtemps. Fait qu'il y a un côté de moi créatif qui aimerait ça, essayer de faire ça autrement. Puis il y a un côté de moi que ça ne tente pas pantoute pour plein de raisons que tu viens de dire. Puis j'en ai déjà parlé souvent en privé avec des entrepreneurs très connus au Québec, très connus. Puis les gars, les filles viennent qui nous disent toutes la même affaire, c'est que j'aurais plus de vie privée.
Exact.
Puis déjà là, moi, ma vie privée, tu le sais, Yannick, on a eu des enjeux là, dans les deux dernières années dans ma vie privée, avec, malheureusement, une dame que je ne connais pas qui était tombée en amour avec moi. C'est allé très, très loin. Il a fallu mettre de la protection à l'école, etc. La police est intervenue, les tribunaux sont intervenus. Il y a eu une sentence.
C'est ce côté-là qui tente peut-être un peu moins.
Il y a constamment des rumeurs à savoir je suis en couple, puis je suis en couple avec qui, puis es-tu en couple avec quelqu'un de connu de la région de Québec.
Ben, ça, je l'ai entendu.
Ben, oui, tout le monde l'a entendu.
J'ai essayé de le faire confirmer, finalement, ils m'ont dit non.
Ça a fini plus de finir.
Je pouvais pas me mairer.
J'ai mis ma maison à vendre dernièrement. Ben, ça a passé dans le journal que Trudel vend sa maison. T'sais. Puis là, je suis juste un entrepreneur privé avec une compagnie 100% privée. Je ne suis aucunement un titulaire de charges publiques. Uh-huh. Et mes décisions n'engagent pas les taxes des gens.
Exact. Okay?
La journée qu'il y a des décisions qui engagent les taxes des gens, les gens commencent à te percevoir différemment, puis je comprends très bien pourquoi. Puis ils commencent à s'intéresser à ta vie privée de façon différente. Puis ça, c'est le bout qui me tente pas. Tu sais, j'entendais dans une autre station de radio, dans les derniers jours, une commentatrice qui disait « Ouais, mais Dominique Anglade, là, quand ils ont déposé leur bilan dans le temps qu'elle était élue, là, elle a 12 millions d'actifs nets. Là, comment veux-tu qu'elle nous représente, nous autres, le monde ordinaire? » Okay, mais
c'est un peu con. Comme réflexion, c'est un peu con.
C'est-tu nécessaire qu'on sache ça? Peut-être que oui, pour la transparence. Je dis pas non, OK? Mais si tu as 22 $ d'actifs nets, tu peux très bien représenter les gens aussi si tu es élu pour les bonnes raisons puis tu fais une bonne job.
Ça s'appelle la démocratie.
Puis si tu as 22 millions d'actifs nets...
Tu peux le faire aussi.
C'est que c'est parce que les gens vont dire « Hey, William, tu devrais y aller pour nous représenter. On a confiance en toi parce que tu es un entrepreneur qui a bâti une immense entreprise. Ça veut dire que tu sais comment ça marche, entre guillemets, runner des choses. » Mais pour la même raison, après ça, ils vont dire « Hey, t'as-tu vu l'actif net qui a déclaré? On sait bien. C'est sûr que lui, le prix d'épicerie qui monte, ça ne le dérange pas. Si vous me demandez d'aller en politique parce que j'ai bâti une grosse entreprise qui marche bien à succès, y a-tu quelqu'un qui se doute que si j'ai bien fait ma job, normalement, mon actif net est bon?
Exact.
Ça va ensemble, ça.
Oui.
Demandez-moi-les pas d'aller là pour chialer après que mon actif est bon. Vous voulez que j'y aille pour ça?
Oui.
Fait que, tu sais, cette bout-là, il me tente moins. Mais il y a tout le temps quelque chose en dedans de moi qui aimerait ça essayer de changer les choses pour améliorer les affaires qui traînent depuis trop longtemps.
Ben, je nous le souhaite, du moins. William Trudel, ex-policier qui partait régulièrement en mission, puis homme d'affaires chez Trudel Alliance. Ça a été un plaisir de prendre un 60 minutes avec toi. Un gros merci de t'être rendu disponible. Je sais que tu es pas mal occupé. Mais écoute, on se repiquera une jasette dans quelques mois si jamais il se passe de quoi dans le merveilleux monde de l'immobilier.
Ben, merci, ça a passé très, très vite. Je me suis pas rendu compte que ça a duré 60 minutes.
Marceau, le soir.
La Disco Glace, c'est la première discothèque glacée en Amérique du Nord et on a la chance de l'avoir à Québec. Boulevard est fier de t'inviter à cette toute nouvelle patinoire réfrigérée située à l'Agora du Port de Québec qui t'accueille gratuitement 7 jours sur 7. Viens aussi vivre l'ambiance unique des soirées thématiques du jeudi au dimanche. Avec son décor hivernal enchanteur, c'est la place parfaite pour illuminer tes soirées et tes week-ends avec des jeux de lumière et de la musique. Enfile tes patins et viens faire vibrer la Disco Glace en collaboration avec Boulevard 102.1.
Salut la gang, c'est François Baudry, chroniqueur web de l'émission Gravel dans le retour. T'aimes mes chroniques? Tu veux en savoir plus sur le monde numérique? Rends-toi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.
Plus j'y pense, plus j'ai bien fait de cotiser à Montréal puis à mon CELI chez Desjardins. Hein, Pompon? C'est vrai que je fais d'une pierre deux coups. J'économise de l'impôt avec mon REER et j'épargne à l'abri de l'impôt avec mon CELI. J'aurai peut-être un remboursement d'impôt pour me gâter. Non, pas de saumon. J'ai dit me gâter.
Offrez-vous des économies d'impôt pour 2024. Cotisez à votre REER chez Desjardins au plus tard le 3 mars 2025. Conditions et modalités applicables.
C'est l'événement Avantage Hyundai. Obtenez du financement à